Il commence à se faire tard à 20h passées de 31 minutes. Je sais pas vous, mais moi je commence à avoir faim. Est-ce qu'il serait pas l'heure de passer au fromage par hasard?
Certainement, et Mathilde, il paraît que tu vas nous parler de lait dans ton billet écolo et plus particulièrement de l'ogre du lait, et j'insiste sur cette terminaison en et bien sudiste.
Oui, je vais vous parler de lait et de fromage, puisque l'ogre du lait, c'est une enquête menée par quatre journalistes de Disclose, dont Inès Léraud, connue pour ses enquêtes sur l'agroalimentaire breton et les algues vertes, qui ont aussi donné lieu à une BD et à des épisodes de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Cette fois-ci, l'enquête porte sur le géant du lait Lactalis, qui a 60 usines en France. Alors, pour faire bref, les petits pots laitières, le Roquefort Société ou le Camembert Président, tout ça, c'est Lactalis. L'enquête révèle que sur les 60 usines Lactalis en France, plus de la moitié sont en violation avec le code de l'environnement, notamment à cause de leurs rejets toxiques dans les cours d'eau. C'est par exemple le cas pour des rivières du parc naturel régional du Vercors ou celui des volcans d'Auvergne. Mais le plus choquant, c'est encore les subventions que reçoit Lactalis pour polluer moins. Inès Léraud a comptabilisé à environ 1 million d'euros par an depuis les années 2000 le montant des subventions qui lui sont accordées, alors que l'entreprise pollue en toute impunité, comme l'atteste par exemple la pollution en 2017 de la rivière de la Seiche en Ille-et-Vilaine, où plus de 5 tonnes de poissons morts ont été ramassées à la suite des rejets d'une usine Lactalis en amont.
Bon, je te trouve un petit peu pessimiste, moi. Pourquoi dans tes billets écolos, tu nous parles pas de nouvelles positives dans la lutte contre la pollution? Alors, ok, il reste beaucoup à faire pour lutter contre la pollution de nos rivières, apparemment, mais prenons la pollution atmosphérique, par exemple. J'ai ouï dire que BMW aurait annoncé que d'ici 2030, un véhicule sur deux vendu en Europe serait électrique. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est assurément une bonne transition, en tout cas.
Alors, la production de voitures électriques, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah, je te dirais presque autant que la sortie de l'iPhone 12,
Ah
quoi.
oui.
Donc, finalement, pas vraiment. En fait, il y a un point commun d'ailleurs entre ces deux innovations techniques fabuleuses qui vont rendre notre quotidien si facile. Leur point commun, c'est surtout leur impact sur leur environnement, sur notre environnement aussi, qui n'est absolument pas négligeable. Elles sont toutes les deux consommatrice de terres rares, ces métaux précieux comme le néodyme par exemple, qui est utilisé dans les batteries des voitures électriques, ou le coltan et le cobalt pour vos téléphones portables, et le mien d'ailleurs. En tout cas, la demande en terres rares, du fait de ces innovations techniques, augmente de 6% par an dans le monde. Or, la concentration de ces métaux diminue de plus en plus dans les mines dans lesquelles ils sont exploités. Les mines peuvent être de plus en plus grandes, les déchets miniers sont de plus en plus importants, pour une extraction de minerais en quantité de plus en plus faible. Un article paru dans Nature cette année a mis en évidence que ces nombreuses mines participaient de manière conséquente à l'accélération de l'érosion de la biodiversité. Et c'est sans compter les impacts sur la santé des déchets miniers. Par exemple, ceux issus de l'exploitation du néodyme sont radioactifs. Bon, je suis mauvaise langue, vous me direz, puisqu'Apple a annoncé que justement, pour le tout dernier iPhone 12, 100% des métaux rares utilisés dans sa construction seraient originaires de terres rares recyclées. Celles-ci servent par exemple aux aimants qui participent au bon fonctionnement de votre smartphone.
Bon ben voilà, ça te satisfait pas peut-être?
Eh bien non, Rémi, toujours pas.
Ah.
Alors oui. Bien sûr, c'est toujours mieux que les matériaux proviennent du recyclage que directement de la mine, et les pratiques de recyclage des métaux doivent forcément s'intensifier si on veut éviter des politiques extractivistes aux conséquences socio-environnementales désastreuses. Mais pour cela, il faut quand même bien regarder avec précision comment fonctionnent ces filières de recyclage. Comme le dit la chercheuse Judith Pigneur, qui a fait sa thèse sur le néodyme, en Europe, par exemple, les filières de recyclage doivent utiliser des minerais directement extraits de la mine pour recycler d'autres minerais. Donc on voit bien qu'il y a un problème quelque part, et c'est surtout sans compter sur l'effet rebond. Si on assure le consommateur que le produit qu'il achète est ouvert, tout propre, sans conséquences pour la planète, il aura peu de scrupules à continuer à consommer. Or, si l'on parvient à recycler ces métaux rares, pourquoi ne pas envisager d'utiliser ces derniers pour des usages au caractère essentiel? À voir toutefois ce que la société déciderait à propos du caractère essentiel de sortir régulièrement de nouveaux modèles de smartphones.
Merci beaucoup Mathilde pour cette petite mise au point.
C'est toujours le journal radiophonique amplifié sur Transistor, fer de lance d'un néo-gauchisme que je m'applique à détruire tous les jours sur Transistor jusqu'à 21h.
Et il est 20h36 sur Transistor, c'est presque la fin de votre journal amplifié, mais avant de terminer, on va parler un tout petit peu de culture.